Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, non, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et jeudi oblige. Mathilde et Aminata sont en ma compagnie et Clarisse, notre stagiaire de la semaine, sera là pour l'agenda de la fin d'émission. Que des filles en somme. Aujourd'hui dans le sous-marin, nous recevons deux étudiants de la licence professionnelle management des entreprises culturelles, Nadège Robert et Rémi Masseron. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous organisez mardi une journée de réflexion consacrée à la valeur d'un équipement culturel. Et Chloé Langeard, vous êtes également en studio, vous êtes sociologue et enseignant-chercheur et participez à cette journée. Bonsoir.
Bonsoir.
Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Mais d'abord, après les infos de 19h, on retrouve Mathilde. Salut Mathilde.
Salut.
Chaque jeudi, tu nous livres un flash au niveau de la mer avec des infos dont nous aurions pu nous passer. Et aujourd'hui, après le soutien-gorge Taser, encore une brillante idée de nos amis asiatiques qui semblent avoir une légère obsession pour ce sous-vêtement.
Les Nippons ont récemment sorti un soutien-gorge qui se dégrafe tout seul. Mais comment ? Voilà la réponse. Ce dernier est équipé de capteurs pour analyser le rythme cardiaque de la jeune damoiselle afin d'en déduire si elle est amoureuse. Alors le signal recueilli par les capteurs est relié à un téléphone portable par Bluetooth pour une magnifique analyse comparative des battements du cœur et déduction via une application spéciale. En cas de courbe correspondant à celle du désir amoureux, bim, ouverture du soutien-gorge. Radical pour le prétendant qui accédera alors à une vue panoramique de la chose, aussi gênante soit-elle en vérité pour la fille. Cougar et tigresse en tout genre, cet objet est pour vous. C'est sans doute le fait divers le plus what the fuck qu'on ait pu recueillir jusqu'à aujourd'hui. Pensant à une blague en premier lieu, j'ai consulté différents sites d'information en ligne pour vérifier l'information. Et la surprise a été d'autant plus grande lorsque j'ai vu que ce what the fuck général faisait la une des rubriques insolites. Vous pensiez que les vaches étaient capables de polluer à cause de leur flatulence? J'ai trouvé pire. Rasdorf, en Allemagne. 90 vaches enfermées dans une étable, je cite, probablement insuffisamment aérées, ont provoqué une explosion due à leur flatulence. Leur petit étant chargés en méthane, ont provoqué une décharge électrostatique, selon l'AFP, endommageant méchamment le toit du bâtiment. Heureusement, personne n'a été blessé. Seule l'une des vaches a été victime d'une brûlure à l'un de ses pies, a rapporté la police. Mesdames, ça vous apprendra à péter n'importe où et n'importe quand. Il n'y a pas que Robin Sparkles, personnage de la sitcom How I Met Your Mother pour les incultes, qui est menacé d'être renvoyé au Canada. Las d'héberger un chanteur qui cumule bourde sur bourde, les Américains ont fait circuler à travers le pays une pétition réclamant le renvoi du chanteur Justin Bieber dans son pays. Récoltant plus de 100 000 signatures, c'est l'administration de Barack Obama qui devra s'occuper du cas Bieber. Nous voulons voir le dangereux, le chauffard, le destructeur et le drogué Justin Bieber reconduit à la frontière et sa carte verte annulée, écrit la pétition lancée par un certain J.A. de Détroit jeudi dernier. Pour résumer les faits, Justin Bieber a enchaîné les déboires en étant accusé de conduite en état d'ébriété, de consommation de substances illicites, ainsi que d'agression sur son chauffeur dernièrement. Le comble étant que les Canadiens hurlent pour l'inverse en déclarant sur les réseaux sociaux « Bieber reste aux États-Unis ». Les Beliebers européennes doivent évidemment se réjouir de cette nouvelle, mais ça va aller, tu peux rester où tu es Justine, l'Europe a déjà assez de problèmes comme ça.
Pour un recrutement maintenant, vous aimez manger et vous êtes au chômage en ce moment, nous avons le job de vos rêves.
Prenez votre billet d'avion et direction la Corée du Sud, où manger devant sa webcam peut rapporter jusqu'à 9 000 $ par mois. Fake ? Non, pas du tout. Prenez le concept de la webcam rose, transposez-la au principe du food porn, et vous avez l'essence du concept. Plus de 3 500 shows sur internet existent déjà. L'idée, c'est de se filmer en train de manger tout en dialoguant avec les spectateurs. Le but serait de donner du plaisir à ceux qui sont au régime, ont une petite fringale de nuit sans avoir de quoi les combler, sont seuls à l'heure du dîner, ou encore à ceux qui ont des fantasmes chelous avec la bouffe, ou les activités intestinales en tout genre, bref, ça fait un paquet de monde devant l'écran. L'une des plus connues, Park Seo-yeon, y consacre environ 3 heures par jour et a déclaré qu'elle pouvait gagner jusqu'à 9 400 $ certains mois. Rentable comme job.
Merci Mathilde pour ce flash au niveau de la mer. On te retrouvera jeudi prochain et tout de suite, on lance la musique. Une première pause musicale, Asger avec King & Cross.
Kiss me right and true, and she is walking with me from the house of red. I hear a child crying for
Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. Aujourd'hui, nous allons évoquer une journée conférence-débat qui aura lieu mardi prochain, le 4 février, au Quai, une journée organisée par la licence professionnelle Management des entreprises culturelles. Et c'est une journée de réflexion sur la question de la valeur d'un équipement culturel pour son territoire. Pour aborder cette question, nous accueillons donc dans notre sous-marin deux étudiants de cette licence, Nadège Robert et Rémi Masseron. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et Chloé Langeard, sociologue et enseignant-chercheur dans cette licence. Merci à vous trois. Alors d'abord, est-ce qu'on peut dire un premier mot sur cette licence professionnelle, Nadège, Rémi ?
Oui, on peut. C'est l'utilité de cette licence, peut-être. Nous, Nadège et moi, en fait, on est issus de la formation continue, parce qu'on a un petit passé dans la vie active, justement dans le domaine culturel. Et cette licence nous permet, je pense, de connaître les choses plus. Enfin, moi, par exemple, j'étais dans la diffusion, donc j'étais pas trop dans l'administratif, la compta, tout ça. Donc, ça me donne vraiment d'autres aspects très concrets concernant la culture. Et c'est bien parce qu'il y a vraiment plein de profils différents. Il y a également, du coup, des étudiants qui sont dans le cursus normal et qui découvrent justement la culture, qui basculent dans ce monde-là.
Voilà. Et en fait, il y a un complément entre des personnes qui sont issues de formation logistique, comptabilité, communication, et puis des personnes en reprise d'études qui connaissent un petit peu plus la culture au sein même de leurs expériences professionnelles, et puis qui viennent s'armer de nouveaux outils et de réflexions, parce que la formation, c'est une alternance entre des cours très pratiques, tenir une comptabilité, gérer des payes, et puis des cours plus sur la réflexion globale, l'histoire des politiques culturelles, la sociologie des publics, etc.
D'accord, et dans le cadre de cette licence, donc, vous organisez cette journée Valeurs avec un S entre parenthèses d'un équipement culturel pour son territoire. Alors, elle s'organise dans quel cadre cette journée? Elle s'inscrit dans quel objectif?
Ça fait partie des projets tutorés dont on a la charge. Donc, sur ces questions-là, en fait, la journée en soi elle rassemble diverses conférences sur les thématiques bien précises qui s'intéressent aux équipements culturels pour son territoire, l'adaptation de ces équipements. Nous, on était en charge de l'organisation de ces journées, donc préparation en amont. La journée même, on va tous être au taquet sur la logistique et puis après l'évaluation en aval. Donc on s'est constitué de nous-mêmes en différents pôles. Donc il y avait la finance, la communication, j'en oublie un avec la coordination.
La logistique.
Exactement, qu'on retrouvera mardi. Et voilà.
Alors cette journée, elle s'inscrit dans un projet plus large, un projet qui est nommé Valeurs et utilité de la culture. C'est un projet qui est financé par la région, qui a été lancé il y a 7 ans, si je ne me trompe pas, en 2007.
Non.
J'ai pas les bonnes informations, alors ça fait un an seulement. Chloé Langeard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce projet?
Oui, en fait c'est un projet qui est financé effectivement par le Conseil Régional des Pays de la Loire dans le cadre de ses appels à projets recherche. Cela fait 3 ans en fait que ce programme de recherche a débuté, et donc on arrive là à la dernière année, l'année des résultats. Juste pour signaler qu'il y aura d'ailleurs un colloque final pour clôturer ce programme de recherche qui aura lieu donc au mois de juin sur Nantes, Angers et Saint-Nazaire. Concernant ce programme de recherche. Alors après, à dire qu'effectivement, il concentre différents chercheurs de différentes disciplines. L'objectif étant de constituer un pôle de recherche actif sur la culture en Pays de la Loire.
Avec quels objectifs?
Avec un objectif qui est effectivement de se pencher sur quelles sont les valeurs justement de la culture, donc de manière très générale et en particulier pour son territoire, et puis surtout d'associer les professionnels à cette démarche, puisqu'on conçoit cette recherche d'un point de vue de ce qu'on appelle la recherche-action, c'est-à-dire que la recherche ne peut pas se faire sans les professionnels, et donc c'est pour ça qu'on initie ce genre de journée qui doit se faire avec les professionnels et, je dirais, le public citoyen en général, puisqu'on parle de politique publique. Donc, ça intéresse de manière générale l'ensemble des citoyens.
Alors, à Angers, en termes d'équipement culturel, on a le choix. On pense aux institutions, il y a l'ONPL, le CAI, le Chabada. Il y a aussi les cafés-concerts, l'Étincelle. Pourquoi vous avez choisi d'organiser cette journée au CAI, qui est le Forum des Arts Vivants à Angers? Pourquoi avoir choisi cette structure qui est très institutionnelle et pas un lieu plus underground comme les cafés-concerts?
Alors, ça fait partie. En fait, le CAI fait partie des structures professionnelles qui sont partenaires de ce programme de recherche. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'en termes de recherche, on ne s'est penché que sur des structures institutionnelles. Bien évidemment, il y a d'autres terrains de recherche qui sont beaucoup plus underground, moins institutionnalisés. Et l'objectif, en définitive, c'est vraiment. Alors, le lieu, si vous voulez, c'était déjà aussi parce qu'il. Il voulait bien nous accueillir, il permettait aussi de nous accueillir, et tous les lieux underground ne permettent pas forcément d'accueillir ce genre de manifestation. Maintenant, bien évidemment, aucune discrimination n'est faite concernant nos terrains de recherche.
Alors derrière le terme de valeur qu'on va approfondir là, dans l'émission, il y a un S, il y a donc plusieurs niveaux de réflexion. Est-ce que vous pouvez décliner peut-être ces différentes valeurs? Est-ce qu'elles sont économiques? Est-ce que ce sont des valeurs, clairement des valeurs humaines, de culture? Ou est-ce que ce sont des valeurs pour la population qui est touchée par ces équipements culturels?
Alors effectivement, on part de cette question de la valeur qui se pose aujourd'hui avec justement d'autant plus d'acuité qu'on entrevoit souvent la valeur de la culture que sous son angle proprement économique ou alors de manière comptable via des indicateurs. Et si jusqu'ici, effectivement, la culture, on dit de la culture qu'elle coûte cher, parfois trop cher, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le rapport qui a été commandé par Madame Aurélie Filippetti, donc ministre de la culture rapporte beaucoup. Donc au final, ça reste des histoires de chiffres, tout dépend le sens qu'on veut bien leur donner. Nous, effectivement, l'objectif de cette journée, c'est vraiment de dépasser justement cette valeur strictement économique pour aller vers d'autres valeurs. Alors, quelles sont ces autres d'autres valeurs. Effectivement, on parle de la culture en des termes de développement social aussi. On en parle aussi en termes de développement de bien-être, de vivre ensemble, de cohésion sociale, de lien social, etc. Donc c'est entrevoir en définitive la culture sous d'autres angles. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai fait le choix d'inviter effectivement des enseignants-chercheurs de toute discipline. Hein, c'est pas que de la sociologie, il y a des enseignants-chercheurs en sciences politiques, en gestion, etc., pour aborder justement toutes ces autres valeurs qui ne sont pas mises en valeur jusque-là, alors même qu'elles ont de la valeur, en particulier pour les publics.
Alors concrètement, quelle valeur ça a un équipement culturel pour une population, par exemple ?
Bah, la valeur, ça peut être par exemple la fierté. Fierté, alors ça, on le verra notamment avec l'intervention de Sylvia Girel sur l'effet MUSEM 2013. Sylvia Girel qui nous parlera donc de Marseille. Ça peut avoir comme valeur, effectivement, l'appropriation d'un équipement sans pour autant aller dans les salles de ce même équipement culturel. Donc il y a une autre appropriation, en définitive, par exemple, d'un théâtre que celle qu'on conçoit habituellement. Ça peut être, effectivement, le lien social, ça peut être le fait effectivement de voir que des acteurs qui jusque-là ne travaillaient jamais ensemble, comme les acteurs du milieu culturel et les acteurs du milieu de l'action sociale, finissent par travailler ensemble pour au final rendre une politique publique beaucoup plus efficiente que lorsqu'elles ne travaillent de manière cloisonnée.
Alors justement, Angèle, il existe une charte culture et solidarité qui vise à développer des actions en direction des publics défavorisés. Quelles sont les actions mises en œuvre qui peuvent justement mener ces publics-là, qui ne sont pas forcément les publics habitués aux salles au quai, je pense au quai par exemple, puisque vous organisez votre journée de mardi là-bas. Quelles sont les actions menées envers ces publics-là grâce à cette charte ?
Oui. Alors, grâce à cette charte, et justement en parlant justement des équipements culturels, c'est que de plus en plus les équipements culturels font non plus pour un public, mais font avec ce public, et donc ils vont le chercher en dehors de leurs murs. C'est ce qu'on appelle les spectacles, notamment hors les murs. Et disons que cette charte culture et solidarité permet déjà de reconnaître les cultures et non pas seulement une culture, celle qui vient d'en haut, celle qui est étatique et celle qu'on connaît tous. Et je dirais que l'important dans tous ces projets qui sont développés, notamment hors les murs, c'est vraiment de concevoir le public non plus comme un récepteur, comme un consommateur, mais bien comme étant un acteur à part entière du processus, et donc lui redonner sa place de citoyen, et lui-même retrouver confiance en lui, dans ses démarches. Alors, ça ne va pas forcément se traduire par retrouver un emploi, mais pour autant, effectivement, lui donner plus d'assurance et aussi, j'ai envie de dire, le sensibiliser davantage aux pratiques amateurs, qui est une problématique qu'on a longtemps laissée de côté et qui me paraît essentielle quand on parle d'accessibilité, justement, de l'ensemble des citoyens à la culture.
Est-ce que justement cette appropriation de la culture, on ne va pas parler de consommation, mais d'appropriation, elle évolue au fil du temps grâce à ces actions-là ? Est-ce que vous avez noté une évolution ?
Alors pour l'instant, on n'a pas assez de recul, je dirais, puisqu'en fait, les grandes enquêtes nationales restent encore avec ce schéma de la culture qui est extrêmement élitiste, puisqu'elle vient d'en haut, donc étatique. Ces grandes enquêtes nationales qui sont notamment menées par Olivier Donat, où là, effectivement, on a du recul sur 10, 20, voire 30 ans. Il faut dire que ces processus artistiques dont je suis en train de parler, ce sont des initiatives assez récentes, et surtout qu'on a du mal à évaluer. D'où justement, en tout cas c'est ce que cette journée va aborder aussi, c'est cette question de l'évaluation, c'est-à-dire que maintenant, comment est-ce qu'on peut effectivement évaluer ce genre de processus ? C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un état de fait, on est sur un processus, et comment on l'évalue, jusqu'où on l'évalue, faut-il vraiment l'évaluer ? Voilà les questions qui seront posées durant cette journée.
Alors pour illustrer un petit peu vos propos, on a interviewé cet après-midi Christian Mousseau-Fernandez, le directeur du Quai, par téléphone. Il a répondu à nos questions sur ces thématiques, à savoir les retombées en termes d'économie, mais également les retombées auprès des publics. On l'écoute. Christian Mousseau-Fernandez, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus Angers.
Bonjour.
Alors, le CAIR réunit plusieurs structures, le NTA, le CNDC et donc le PCC. L'idée d'un équipement culturel comme le CAIR, c'est d'attirer un maximum de publics, des publics différents. Est-ce que, pourtant, il n'y a pas toujours un peu ce même public d'abonnés qui fréquentent le PCC de l'autre côté de la Maine ?
Alors, comme dans tous les théâtres, je dirais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, il y a toujours entre guillemets ce qu'on appelle le noyau dur qui est fait d'enseignants et d'enseignés. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, après maintenant 7 ans d'ouverture, le quai, je crois, peut s'enorgueillir d'avoir su construire des liens avec des populations qui a priori ne sont pas enclins à venir naturellement se confronter à des œuvres du spectacle vivant. Et ça, notamment grâce à un très gros travail qui est conduit par les 3 équipes d'ailleurs. Donc des actions pour spécifiques qui viennent sensibiliser les populations autour d'un projet artistique en particulier pour leur faire faire ce qu'on pourrait appeler un premier pas vers le lieu, mais aussi un premier pas vers l'offre, ce qu'on appelle l'offre culturelle qui est proposée au quai. Alors oui, pour répondre à votre question, sans doute que nous avons nous aussi notre noyau dur, je dirais, de personnes qui naturellement vont vers l'art et la culture, mais oui aussi le lieu permet, à travers toutes les énergies qui sont développées à l'intérieur et à l'extérieur, d'aller chercher d'autres types de populations.
À l'EPCC, vous êtes partenaire de la Charte Culture et Solidarité de la Ville, donc qui vise à soutenir des projets en direction des publics défavorisés. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez ?
Ce sont des actions vraiment de proximité. Le principe de la Charte Culture et Solidarité, c'est d'essayer de répondre à 2 freins. Le premier, il peut être tarifaire. Et donc la Charte Culture Solidarité permet aux personnes d'accéder au spectacle pour 2 euros. Et puis le deuxième frein, lui, il est plus compliqué. C'est un frein plus culturel, celui-là, où il s'agit de rendre plus accessible l'offre de spectacles qu'on peut avoir. Et donc, de façon très choisie, sur un spectacle de cirque, par exemple, on va décider d'une action, cette fois, non pas au quai, mais sur le territoire où habitent les habitants qu'on a envie de sensibiliser. Et une rencontre donc de proximité va avoir lieu dans un quartier, dans un quartier, par exemple, ou une association d'habitants qui rencontre avec un artiste ou dans ce frère, et la charte solidarité, je vais au spectacle, mais après, je vais passer un temps convivial, qui à l'intérieur du quai au bar, mais aussi en ville, parce que je vais manger en ville, etc., etc. Donc, il y a plein d'effets induits de ces temps-là. Donc, il n'y a pas d'études d'impact, je dirais, direct qui ait été fait sur le quai, mais c'est évident que nous sommes un élément moteur d'un point de vue économique. Encore la ministre de la Culture la semaine dernière le disait, où la dernière étude montre que le secteur de la culture pris dans son ensemble, pas que le spectacle vivant, représente plus d'un point de vue économique que le secteur de l'automobile. Voilà, on a notamment une économie induite par l'activité qui est extrêmement forte.
Merci beaucoup Christian Mousseau-Fernandez d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Christian Mousseau-Fernandez, qui est donc le directeur du CAE et qui interviendra bien sûr mardi lors de cette journée conférence-débat. Peut-être une réaction, Chloé Langeard, Nadège Robert, Rémi Masseron.
Oui, donc on voit bien que là encore, on demande à la culture de se justifier d'un point de vue économique, ce qu'on ne demanderait pas par exemple à un hôpital, ce qu'on ne demanderait pas à d'autres secteurs de l'action publique. Mais voilà, la peur que j'ai moi, personnellement, c'est que ces acteurs culturels, on le voit bien en tout cas là, avec le discours de Christian Mousseau-Fernandez, s'engouffrent dans cette brèche uniquement économique et du coup efface par là même tous les autres, en tout cas toute la plus-value que ça peut apporter en dehors de l'économie même, bien évidemment que ça apporte, puisque la culture reste un secteur d'activité comme l'hôpital, comme, enfin voilà, donc voilà, juste cette réaction à chaud.
Mais on reviendra quand même sur cette question de l'économie, puisque le thème c'est valeurs, et même si elles sont plurielles, on évoquera cette question dans une seconde partie d'interview, juste après cette pause musicale, Grems avec Room Bang.
Voici les Grems.
Banging in your area. 2013. Je trinque aux vanités et autres qualités, pas l'amitié. Je me prends pour Jane Kelly sous une vie calamité. Tout est planifié, fabriqué, calibré, validé, plastique et balisé, paniqué. Yo, Robin, on s'est juste planté dans les comptes. Tiré à bout, portant dans les ponts. On se croyait dans les bons plans, on était que du plancton. Poisson clown dans un banton.
In your area.
Des proies à la chair insipide. Retour de bâton dans les incisives. Les incivilisés esquivent pour ainsi dire. Inspire, un sourire, inspirer, s'assoupir. Chercher les moutons, ne compter qu'un tas de cobayes. Entouré d'un squad de squales et leur nageoire caudale. Ça se passe mal, une populace à la masse totale. Embrassez vos femmes et embrassez le gaz propane. Ça foire trop tard, on se bat pour un quart de gloire. On parle de quoi, part de soi, boulevard Haussmann. Achève-moi d'une balle dans le crâne si je parle de soi. Si je prends une tape de crack ou une trace de quoi que ce soit. Une trace de quoi que ce soit.
Banging in your area. Banging in your area. Banging in your area. Area, area, area. Banging in your area. Banging, banging in your area. Banging in your area. Area, area, area,
area. Antifashion fait des millions de centimes à l'heure. En faisant pas vraiment grand chose, pas le temps et j'habite ailleurs. T'aurais fait un grand dictateur, Henri gentil rappeur, avec ton armée pétée de 110 backers. Empire aveugle, envie d'être un bandit braqueur. Va mentir ailleurs, je t'ai grillé, ça t'a blanchi la gueule. T'as senti la sens, puis les ennuis, la preuve. Tu mendies les fanzines, vampire au dancy, dandy fashion. Tant pis battle, tremblerais sans vie ma gueule. Je t'écarte les jambes pour vendre ou prendre, tu seras un candidat neuf. On est en temps de crise, je pourrais bouffer Bambi la touche. Allez, gentil ta meuf, elle a même pas senti ta teuf. Antifashion. L'emprise à jeune, rend les gens vides, genre vraiment tous, t'es lent pour des gens, si va buzz. Je suis là où j'ai senti l'accueil, j'ai rempli ma feuille, avec mon sang, j'ai tout mon temps, j'ai déjà fait le 100 000 à l'heure.
Yeah. Enfin, c'est les grimpes, yeah.
Maîtrise de logique.
Boom, banging in the area. Bang.
Area, 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 area,
Vous êtes bien dans le sous-marin sur Radio Campus Angers pour une émission consacrée à la journée conférence débat de mardi prochain sur la question de la valeur et les valeurs d'un équipement culturel pour son territoire. Alors juste avant cette pause musicale, on évoquait la question économique, des retombées économiques, puisqu'on a entendu l'interview de Christian Mousseau-Fernandez. Comment est-ce qu'on peut savoir, et est-ce qu'il y a des outils pour connaître les retombées économiques d'un équipement culturel, Chloé Langeard? Est-ce que d'abord c'est indispensable?
Alors déjà, il faudrait déjà se poser la question avant de vouloir évaluer à tout va, si effectivement le pourquoi on veut évaluer. Parce qu'au final, ce qu'on se rend compte, et notamment dans le secteur culturel, mais c'est pas le seul, c'est que on fait beaucoup d'évaluations, et puis l'évaluation reste une fin en soi. On a des chiffres, d'ailleurs on leur donne le sens qu'on veut bien leur donner. Si on a envie de défendre, eh bien on en parle de telle manière, et puis si on a envie de le contrer, on en parle d'une autre manière. Donc déjà, pourquoi on évalue, ça me semble extrêmement important. Qu'est-ce qu'on en attend aussi de cette évaluation? Parce qu'au final, à force de tout vouloir évaluer, on se rend compte que ces évaluations, ça coûte plus cher peut-être que d'avoir une politique publique efficiente. Donc voilà, ça me semble extrêmement important d'avoir cet objectif-là. Maintenant, est-ce qu'on a la possibilité? Oui, les économistes vous le diront. Moi, en tant que sociologue, effectivement, j'y mettrai certaines limites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un équipement culturel est implanté dans un territoire, ça me semble difficile de pouvoir effectivement segmenter les indicateurs, puisque on voit bien que quand ça irrigue, effectivement, en tout cas quand la culture est intégrée dans un projet de territoire, quand ça irrigue le territoire, comment savoir si ça vient réellement de l'équipement culturel, si ça vient réellement du contexte économique, du contexte politique, du contexte social? Tout ça est tellement imbriqué qu'au final on peut toujours sortir des chiffres, mais on ne saura jamais réellement, on pourra jamais réellement savoir si c'est uniquement dû à cet équipement culturel. Donc il y a des moyens de le mesurer, et maintenant c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, ces équipements culturels, voilà, ils ont été construits à un moment donné où on était sur une politique de l'offre, où effectivement on a construit des équipements culturels à tout va qui coûtent cher en termes de fonctionnement. Donc les abonnés effectivement sont extrêmement importants pour ces structures, puisqu'en termes économiques, c'est ce qui leur permet aussi de pouvoir programmer ce qu'ils souhaitent. Maintenant, effectivement, on ne peut pas demander à ces équipements culturels de toujours sortir hors l'institution, puisque leur vocation, à la base, c'est bien aussi de répondre à une demande d'un certain public, pour le coup, effectivement, des abonnés. Abonnés, on sait, hein, bien évidemment, leur catégorie socio-professionnelle. Maintenant, effectivement, l'objectif de ces structures, c'est aussi de développer, peut-être parallèlement, mais ça se fera pas sans moyens. Je veux dire, à budget constant, c'est impossible, mais de développer parallèlement des actions, effectivement, de proximité, d'aller vers d'autres publics, et de prendre ces publics tels qu'ils sont, avec leur propre culture, sans vouloir imposer un certain type de culture.
Est-ce qu'il y a justement des types de cultures, et lesquelles, qui sont plus abordables, plus faciles à... c'est plus facile de faire la démarche d'aller les voir? Des certains équipements culturels, je pense, est-ce que c'est facile d'emmener des gens à l'opéra? Est-ce que c'est facile d'emmener des gens au quai? Est-ce que c'est plus facile de les emmener au Shabada, si on prend les exemples angevins?
Il faudrait déjà se demander pourquoi est-ce qu'on veut emmener ces gens à l'opéra. Je veux dire, après tout, l'opéra, est-ce qu'ils ont envie d'y aller? Cette question-là, on ne se la pose jamais. On se dit que l'opéra, c'est bien, c'est beau, qu'il faut y aller, parce que c'est une représentation de la culture qu'on se fait en France. Maintenant, il faudrait aussi travailler avec les acteurs culturels pour se demander, se poser la question aussi de, au final, si ces individus n'ont pas envie d'aller à l'opéra, pourquoi ne pas les accepter avec leur culture et faire aussi en fonction de leurs envies. Et pour cela, le mieux, c'est vraiment, par exemple, lorsque l'opéra, pour le coup, sort de ses murs et va à la rencontre de ses populations, c'est beaucoup plus intéressant comme démarche que de dire « il y a une offre, venez voir cette offre ».
Alors, tous ces sujets-là, vous les allez en parler à nouveau mardi prochain. On va dire peut-être un mot sur la programmation avant de terminer l'interview. Rémi Masseron, Nadège Robert, peut-être un mot sur les conférences qui sont proposées lors de cette journée?
On peut les présenter. Donc en fait, il y aura déjà une introduction, une présentation de la journée par Chloé Langeard et Christian Mousseau-Fernandez, directeur du Quai. Ensuite, donc, il y aura 4 conférences. À 10h, territorialisation des politiques culturelles. Quels nouveaux enjeux pour les équipements culturels? À 11h, l'action artistique et culturelle au service de l'action sociale. À 13h30, les expériences territorialisées des publics. Et enfin, à 16h, quelle évaluation juste et utile des équipements culturels?
Alors, vous visez quel public pour cette journée conférence-débat?
Bah, tous ceux dont la problématique, les questions culturelles peuvent intéresser, notamment les étudiants d'Angers ou de Nantes, de Saumur, enfin de l'université, l'IUT de Cholet, d'Angers-Cholet. Voilà, après.
Il y a aussi les professionnels.
Oui, bien sûr.
Les programmateurs, les directeurs d'équipements culturels,
et les collectivités publics, territoriales. Même les spectateurs, les publics, tout citoyen. Mais par contre, intéressé quand même par cette question.
Ces sujets assez pointus.
Ouais.
Pointus, mais au final, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment initier le dialogue, et notamment avec n'importe quel citoyen intéressé par cette question.
Donc ça se passe mardi prochain au quai, de 9h30 à 17h. Entrée libre et gratuite, est-ce qu'on peut réserver? Est-ce qu'il faut réserver avant?
Alors oui, il y a un numéro pour réserver.
On le mettra sur le site internet de la radio pour les auditeurs qui sont intéressés par cette journée. Merci beaucoup à vous trois, Nadège Robert, Rémi Masson et Chloé Langeard, d'avoir été sur Radio Campus aujourd'hui.
Merci.
Merci. Merci à toi.
Et on va marquer une courte pause avec Bosco Del Rey, I Wonder So. Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers. À présent, au poste de vigie, comme tous les jeudis, on retrouve Aminata et son périscope. Aminata, chaque semaine, tu décortiques les journaux et analyses les infos. Et cette semaine, tu fais un zoom sur la non-inversion de la courbe du chômage et donc sur l'échec de la promesse de François Hollande.
La nouvelle est tombée lundi dans la journée. François Hollande n'est pas parvenu à inverser la courbe du chômage.
Il nous fallait attendre les chiffres de décembre afin d'affirmer la montée constante du nombre de chômeurs en France. Ils sont en décembre 2013, 8200 de plus par rapport à novembre, être sans aucune activité, classés dans la catégorie A. Alors évidemment, les médias l'accusent, lui, le chef de l'État. Il avait fait de l'emploi une de ses promesses phares, souvenons-nous. Moi, président de la République, je... Cette récente information ne viendra pas améliorer sa situation. Dès le dimanche soir, la radio RTL souligne que le président a d'ores et déjà remplacé le mot « inversion » par « stabilisation », anticipant les réactions négatives à son égard. Sans surprise, dès le mardi matin, presque toutes les unes des quotidiens français lui étaient consacrées. Hollande a du boulot pour Libération. Le Figaro et Aujourd'hui en France titre la même une. Chômage, le pari perdu d'Hollande. Chômage, l'échec pour les Échos. Enfin, l'Humanité publie en une pleine page une photo du chef de l'État derrière la façade du Pôle emploi avec ce titre, droit dans le mur, appuyant encore un peu plus la défaite du président. Certains médias dénoncent les failles et les incohérences de la politique menée par le gouvernement. TF1 rappelle que lors de l'annonce faite par François Hollande du souhait d'inversion de la courbe du chômage courant 2013, cette promesse avait laissé les experts sceptiques. La courbe leur a donné raison. Pour le quotidien de droite Le Figaro, il est impossible, je cite, de prétendre inverser la courbe du chômage sans introduire davantage de flexibilité. Selon Éric Descoutis, journaliste de Libé, la politique de l'offre décidée par le chef de l'État se heurte à une principale réalité, la prévision d'une croissance de moins d'1% insuffisante pour créer des emplois. Les Échos résument et disent « la politique de la France ne s'est tenue qu'à des vieilles recettes ». Puis les autres médias accusent et dénoncent principalement le ras-le-bol des Français face aux promesses qui ne sont pas tenues. Denis Desmin pour La Nouvelle République tire des conclusions sévères. Concours de langue de bois et méthode couée, l'opposition s'afflige de la promesse démagogique et absurde du candidat du changement. Le journaliste Sud-Ouest ne cache pas sa déception. Au lieu de reconnaître l'échec de son pari, l'impossibilité de tenir son engagement martelé tout au long de l'année dernière, le président se réfugie dans le déni. Lui qui promettait de ne pas faire comme ses prédécesseurs. Et lassé, le quotidien Midi Libre pousse la sonnette d'alarme. Arrêtez de faire de belles promesses économiques contre vents et marées. Le chômage est une affaire trop grave pour être l'objet de prophéties hasardeuses, de coups de poker politiques, de prédictions à l'aide d'une boule de cristal. Les prévisions en la matière doivent être mesurées, précises et surtout justes. François Hollande reste la cible de certains médias. Alain Duhamel, dans son édito sur RTL, nous affirme que c'est un échec total et incontestable, puisque François Hollande avait lui-même demandé à être jugé sur l'inversion de la courbe du chômage. Il nous décrit ensuite la place du président, une situation qu'il décrit de périlleuse, car il n'a jamais été dans une situation aussi impopulaire. Et ce n'est pas avec ce qui vient de se passer aussi bien sur le plan privé que public que cela va changer. Selon deux quotidiens régionaux, le président perd en crédibilité. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, il se fragilise encore un peu plus aux yeux des Français, pour lesquels il n'a pas tenu sa parole. Pour la montagne Centre-France, le chef d'État est tombé dans le piège qu'il s'est lui-même tendu. Un des rares points positifs dans ce tableau sombre est la courbe des jeunes. Elle se redresse légèrement. Désormais, la question est de savoir si la France arrivera à renflouer son économie avec le pacte de responsabilité.
Merci beaucoup Aminata pour ce focus sur la non-inversion de la courbe du chômage cette semaine vue par les médias. On termine le sous-marin avec votre agenda de ce soir préparé et présenté par Clarisse, notre stagiaire cette semaine.
Donc ce soir à la salle Claude Chabrol à 20h30, la classe de musique actuelle du conservatoire vous propose le Chab Rock and Roll. C'est une première pour eux et le show promet d'être énergique et électrique. À noter, pensez à amener 3€ pour le tarif ou la carte de conservatoire et ça sera gratuit. Musique toujours à 20h30 également, une soirée Cotton Club, Harlem in Paris au Grand Théâtre. Une immersion totale dans le jazz avec le Saint-Louis Big Bang et les Crazy Studio Lindy Hoppers. Au Shabada, à 20h45, pour 5€, retrouvez un concert pop de David Lemaître. Et enfin, à 22h, au Jacaré, vous pourrez assister à un concert de musique électro avec Théo.
Merci Clarisse, voilà de quoi occuper votre soirée. Voilà, il est l'heure aussi pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était Manu et derrière les micros, Mathilde, Aminata et Clarisse. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com ou en rediffusion demain dès 13h sur le 103FM. Tout de suite, vous retrouvez Turbulence, l'émission des groupes locaux animée par Marion et Robin. Ce soir, ils reçoivent The Little Bastards. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Hier à 19h, vous pouviez entendre entendre une table ronde consacrée à l'innovation, à réécouter sur notre site internet d'ailleurs. Voilà donc un extrait à l'heure du manger. Comment fait-on chez Speedburger pour créer de nouvelles recettes? Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus. Nous, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous! Alors, il y a une autre innovation qui va intéresser les gourmands, c'est l'innovation produit.
Et oui.
Créer des nouvelles recettes et puis savoir si elles sont bonnes.
Voilà, parce que nous sommes vraiment dans le domaine du plaisir. Le hamburger a beau être un repas pris rapidement, nous travaillons beaucoup sur l'aspect innovation côté produit. C'est très important pour nous et d'un point de vue marketing, c'est vraiment là aussi notre fer de lance. Et nos consommateurs nous attendent de ce côté. C'est-à-dire que tous les mois, nous lançons minimum un nouveau produit. Alors là aussi, hein, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire beaucoup de ressources humaines, parce que ces recettes, ces nouvelles recettes, déjà, il faut les penser.
Alors justement, c'est quoi le processus pour inventer un nouveau hamburger avec du foie gras ou du camembert?
Voilà. Alors, ben, le process, il est quand même... il n'est pas aussi simple qu'il pourrait l'être, peut-être, ou qu'il y paraît. Ben, tout d'abord, c'est l'idée. C'est-à-dire que, ben, effectivement, on va puiser dans nos ressources en interne, dans notre réseau, puiser les idées. Les tester. Alors, les tester, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va aller en cuisine, tester différentes versions de ces nouvelles recettes. Tester aussi parce que, bien sûr, notre activité, c'est avant tout de la livraison. Donc, le produit, il faut non seulement tester ses valeurs gustatives, mais il faut aussi tester le fait que bah, le produit va tenir, va tenir le coup avec une livraison qui peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Donc nous testons tous ces aspects-là, hein, c'est-à-dire que quand nous faisons un test, il part de la cuisine, il fait une simulation de livraison, il arrive et puis on teste sa température pour voir voilà comment il arrive, dans quel état il arrive, est-ce qu'il est propre à la consommation en arrivant, mais bien sûr l'essentiel est quand même la partie goût.
Et comment vous savez si ça va fonctionner en termes gustatifs? Parce que ça, c'est très subjectif.
C'est très subjectif. Donc, je crois qu'il y a l'habitude qui fait qu'effectivement, on sait si ça va fonctionner ou pas. Après, je dirais que, voilà, on observe aussi. Comme on lance des nouveaux produits tous les mois, ça nous permet de voir ce qui se passe sur le produit et puis éventuellement de le garder dans notre gamme de produits s'il fonctionne bien. Donc, c'est presque des tests en réalité. Avec notre panel de clients, au lieu d'avoir un panel restreint, c'est l'ensemble de nos clients qui va effectivement tester et puis nous dire et nous faire des retours finalement si ça fonctionne et si ça leur plaît.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.